are powerful. We run this
mother. La femme puissante est un genre de monstre.
Il n'y a pas à se réjouir qu'une femme ait du pouvoir.
Je vais le dire, t'as du clito.
Femme puissante, deux mots qui ne vont pas forcément bien ensemble, deux mots qui sonnent bizarres à l'oreille. On dit qu'elles sont belles, charmantes, piquantes, délicieuses, vives, intelligentes, parfois dures, manipulatrices ou méchantes, mais on dit rarement des femmes qu'elles sont puissantes. Ce mot-là serait réservé aux hommes. Eh bien nous, cet été, chaque samedi, nous célébrerons une femme puissante. Écrivaine, dirigeante, rabbine, femme politique, photographe ou actrice. Et ce samedi, on reçoit une numéro 1 mondiale.
Femme puissante, Léa Salamé, sur France Inter.
Bonjour Mélie Mauresmo. Ça a déjà commencé?
Oui.
Pourquoi vous ne donnez pas plus d'interviews?
Parce que j'ai pas grand chose à dire.
C'est pas vrai ça.
J'ai beaucoup donné il y a longtemps et voilà, j'ai envie un peu d'être tranquille. Et en fait, j'ai profondément la sensation de que ce que je peux dire, c'est pas si intéressant que ça finalement.
On va voir ça. On va voir ça tout de suite.
Elle ne parle presque jamais, donne des interviews au compte-gouttes. Faut dire qu'elle a été vaccinée du bruit médiatique et des polémiques il y a 20 ans, quand au fait de sa gloire, elle a lâché, dans une conférence de presse, que oui, elle aimait une femme. Ce coming out lui a coûté. Elle dit aujourd'hui que si c'était à refaire, elle l'aurait fait différemment. Mais surtout, elle est une femme puissante parce qu'elle est l'une de nos plus grandes championnes. La seule Française dans toute l'histoire du tennis, homme-femme confondu, à avoir été numéro 1 mondiale. La première femme aussi à avoir entraîné des hommes, Andy Murray ou Lucas Pouille. Elle nous a reçus dans une petite salle de Roland-Garros en plein tournoi. En vrai, elle est grande, féminine et souriante, et elle parle d'une voix douce. Amélie Mauresmo est notre invitée. Amélie Mauresmo, si je vous dis que vous êtes une femme puissante, vous me répondez quoi?
J'en doute. Non, en tout cas, je ne me vois pas comme ça. Je peux éventuellement comprendre pourquoi vous me dites ça, mais dans mon quotidien, dans ma vie, ce n'est pas du tout ce que je ressens.
Pourquoi je vous dis ça alors?
Eh ben, j'imagine, voilà, coming out, déjà il y a une vingtaine d'années, une forme de personnalité qui s'affirme, et puis aussi sportivement, pendant 99 à 2009, des résultats que hommes et femmes confondus en France, on n'a pas eu.
J'allais vous dire,
très longtemps.
On peut écouter.
Qui est la première Française à devenir numéro 1 mondial. La défaite de Lindsay Davenport lui a ouvert les portes de
2004.
La gloire.
Dans les allées de Roland-Garros, Amélie Mauresmo n'avait sans doute jamais offert un tel sourire. Rayonnante, cet après-midi, la Française a effectué ses premiers pas de numéro 1 mondial.
Vos premiers pas de numéro
2004,
1 mondial.
Ouais. Ça date.
Vous,
hein,
vous êtes la seule Française, homme-femme confondu, vous le disiez, à avoir été numéro 1 mondial.
Exactement, depuis Suzanne Lenglen et les Mousquetaires à l'époque, donc dans l'ère open, effectivement. C'était une immense fierté. Forcément, ça veut dire quelque chose, même si c'est que dans le tennis. Donc voilà, il y a tout un...
Mais c'est pas que dans le tennis, justement. C'est-à-dire même quelqu'un qui n'aime pas forcément le tennis a été touché qu'une Française. Oui. Il y a quelque chose de patriotique aussi que ça touche.
Certainement, oui, certainement. Et puis, par la suite, entraîner Andy Murray... Enfin, il y a eu beaucoup de symboles, je pense, très très forts pour l'avancée des femmes aussi.
C'est
dans
ce que j'allais vous dire. L'autre numéro 1, vous êtes donc numéro 1 mondial, la seule. Et vous êtes la première Française à avoir entraîné des hommes. Mmh. Andy Murray... Puis ensuite, Lucas Pouille aujourd'hui. Vous aimez bien être numéro 1, être la première à défoncer les portes, à casser les codes?
Oui, je ne peux pas dire que ça me déplaît. Forcément, c'est, je ne le recherche pas. Parce que pour le coup, que ce soit Andy ou Lucas, ils sont venus me chercher. En faisant ça, en l'acceptant, eux en me demandant et moi en l'acceptant, on n'a presque pas le droit à l'erreur. Et on est dans une obligation de résultat. Donc voilà, j'y mets... toute ma détermination.
On va parler de vous comme entraîneuse dans un instant, mais d'abord, le fait d'avoir été numéro 1 mondial, c'était il y a 15 ans, est-ce que ça donne une force particulière? Est-ce que ça donne une puissance particulière?
Ça donne une crédibilité dans son sport qui dépasse, pour une femme, qui dépasse justement le cadre du genre. Et hommes-femmes confondus, aujourd'hui, dans le tennis en France, peut-être même dans le sport, il y a une légitimité, une crédibilité qui est indéniable.
C'est-à-dire que vous avez l'impression que Vous vous faites plus respecter, pas tant que femme, mais en tant que sportive,
je pense,
que championne.
Ouais, je pense assez naturellement que ma parole, en tout cas ce que je dis, c'est quand même écouté et éventuellement suivi. Je ne détiens pas forcément la vérité pour le coup, mais en tout cas je suis entendue, je pense.
Est-ce qu'une femme puissante peut perdre? Et je dirais même, est-ce qu'une femme puissante doit perdre?
Ça arrive de toute façon, donc forcément, surtout dans le sport. Mais ça, je dirais que ça rend la victoire encore plus belle.
Parce que, en fait, vous n'avez pas été championne immédiatement. Au début, vous avez galéré.
J'ai mis beaucoup de temps.
Oui, vous avez galéré. Et vous dites, j'ai compris que ce qui me bloquait avant, c'était la menace de la défaite. Mmh. Je n'arrivais pas à l'accepter, c'était presque une honte. Mmh.
C'est drôle de ressortir ça, parce que effectivement... Je suis très loin de tout ça maintenant, puisque je suis dans l'après. Mais sur le moment, effectivement, c'est une sensation de ne pas avoir le droit de perdre, une sensation qu'avec le talent que je pouvais avoir, ce que j'avais mis en place autour de moi comme structure, j'avais pas le droit de perdre et j'avais honte, et notamment ici à Roland-Garros. Donc, il a fallu apprendre à perdre. Mais apprendre à perdre... pour gagner, pas à la française, finalement, quelque part, où nous, on est très... je trouve qu'en tant que sportif, on est très ancré dans une société où on n'a pas forcément le droit de gagner, pas forcément le droit de réussir. Enfin, c'est très complexe, ce que...
Vous avez
ce sur quoi on doit lutter au quotidien dans notre...
Les Français n'aiment pas les gagnants. Collectif.
Il y a une espèce de truc comme ça qui se joue dans l'inconscient et dès l'enfance. Je pense que c'est des petites graines qui sont... Moi, je l'avais, donc j'ai lutté vraiment contre ça toute ma carrière.
Pour devenir américaine un peu dans la tête, c'est-à-dire
oui,
je veux
vraiment,
gagner
mais...
pour gagner.
Ouais.
J'assume
et
la gagne.
Et la défaite n'a plus de conséquences, en tout cas ne crée plus cette honte qui peut vous déstabiliser totalement, vous paralyser.
Vous pensez que ça, si on élargit ce que vous dites à la société française en général, c'est ce qui empêche les gens de réussir, parce qu'aux États-Unis l'échec est accepté. On gagne, on perd et on se relève. En France, il faut soit gagner mais pas trop, et si on perd, c'est difficile de se relever.
C'est trop simple là, voilà, en quelques minutes, de dire effectivement ça peut s'appliquer à la société en général. Je crois que on doit travailler là-dessus, ouais, et au-delà du sport évidemment. Je crois qu'on a une vision des choses à améliorer, et c'est tous et toutes. Enfin moi la première, je veux dire, je crois qu'il faut qu'on arrive à inculquer autre chose aux générations suivantes et aux gens qu'on côtoie même au quotidien.
En tant que mère par exemple, parce que vous avez deux enfants, est-ce que vous tolérez qu'ils ne soient pas dans un esprit de compétition, de vouloir gagner? Alors, ils sont très petits, là.
Ils sont tout petits, mais ils ont 2 et 3 ans et demi, donc c'est... Mais oui, je le tolère, bien sûr. Enfin, je le tolère, c'est même pas que je le tolère, c'est naturel pour
moi.
Mais
vous pensez que vous les pousserez?
Je crois pas. Je ne sais pas, en fait. Je vous dis tout ça, c'est de la théorie, c'est ce que je vous dis. Et puis après, on a beaucoup de choses qui reviennent. Je pense que quand on éduque ses enfants, sur aussi des choses ancrées en nous, des choses qui ressortent. Donc il faut arriver à conscientiser un peu tout ça et à se dire comment je veux être, qu'est-ce que je veux leur apporter, vers où je veux les guider pour qu'après ils puissent s'envoler. Mais c'est très compliqué. Mais...
Oui, c'est très compliqué. Mais s'il y en a un des deux qui a un potentiel... Vous le pousserez à être excellent dans son domaine, à viser l'excellence, à accepter de gagner?
J'espère. Si c'est l'envie profonde, oui, évidemment. Mais je ne les forcerai pas s'il n'y a pas cette espèce de feu, quand même, de flamme.
Vous aimeriez qu'il soit sportif?
Je m'en fiche un peu, je crois. J'aimerais qu'il fasse du sport, pas forcément au très haut niveau, parce que je pense que c'est une super école de la vie. Je pense que le sport petit... apporte aussi, même à l'école, même pour les acquisitions de lecture, d'écriture, de plein de choses, c'est hyper important, la coordination de son corps avec l'esprit. Je crois beaucoup au lien entre les deux.
Vous pensez qu'on est meilleur en mathématiques quand on fait du sport?
Presque, oui.
Ouais.
Je pense qu'il y a une forme de conscience de soi et derrière de facilité pour acquérir des choses, de facilité d'acquisition de tout. Mais bon, j'ai pas. Ça, c'est vraiment mon côté très instinctif par rapport à tout ça qui parle. Je sais pas, il y a peut-être des études là-dessus. Et c'est une façon aussi de socialement. Le sport, c'est voilà, ça permet de faire des rencontres, de s'intégrer dans des groupes, etc. Donc c'est top.
Je demande à chaque femme puissante que j'interviewe un objet.
C'est très étrange.
Oui, c'est très étrange de dire. C'est très étrange à le dire et étrange la réception à chaque fois que je le dis de chacune des femmes, comme si l'idée de puissance n'irait pas avec la femme.
Alors pour moi c'est pas avec la femme, c'est surtout avec moi qui vis une vie où je trouve, enfin voilà, très loin de la puissance comme on peut l'imaginer, que ce soit politiquement ou en chef d'entreprise, etc.
Oui, mais il y a une forme de puissance à être un modèle, à être
Oui, tout à fait. Mais
alors, j'ai demandé à chaque fois d'amener un objet qui incarnerait à vos yeux la puissance des femmes.
J'ai pas,
Et vous avez pensé à quoi ?
J'ai assez vite pensé à deux choses, mais je crois que le stylo, le crayon, pouvoir exprimer finalement quelque chose, ce qui permet d'accéder aussi à l'éducation et qui pourra derrière engendrer, le pouvoir parler, pouvoir dire ce qu'on a à dire, c'était pour moi, je pense, important.
Le stylo plus que la raquette de tennis.
La raquette, on n'en parle même pas. Non, il y avait éventuellement la pilule et tout ce que ça apportait aux femmes et dans la maîtrise de leur corps, et, etc. Mais je crois que le stylo, je mettrais ça en avant plutôt.
La pilule, vous en parlez, ça a permis l'émancipation des
femmes.
Exactement. Est-ce que vous êtes inquiète aujourd'hui sur la régression des droits des femmes dans certains pays ?
Oui, très. C'est assez effrayant, en fait, de voir que toutes ces femmes qui ont lutté pour faire avancer les droits des femmes, pour l'émancipation, et de voir aujourd'hui qu'en presque un claquement de doigts, dans certains endroits, on est reparti des années en arrière. Et ça, finalement, presque en toute impunité, d'une certaine façon. Donc non, ça fait assez peur. Ouais.
Alors, on vous a demandé, comme à toutes les femmes, de choisir une chanson qui incarne, selon vous, les femmes puissantes.
J'avais oublié la dernière partie, qui incarne les femmes puissantes.
Ah, c'était une chanson en général ?
Oui, c'était juste une chanson.
Une chanson en général.
Vous allez peut-être vous moquer de moi, parce qu'elle incarne pour le coup pas du tout les femmes puissantes, mais pourquoi pas. C'est très d'actualité, hein, Shallow, Lady Gaga, Bradley Cooper, très fleur bleue.
Ah oui ?
Ouais.
Ah oui, je vais me moquer de vous.
Ben voilà, je le savais.
C'est vrai ?
Mais c'est vrai que ça répond pas du tout à la question.
Et alors pourquoi cette chanson ? Parce que vous êtes très fleur bleue. Mais oui, allez-y, faites un lien.
J'essaye, mais là, c'est un peu tiré par les cheveux quand même. Et je suis assez fleur bleue, ouais, pour ces trucs-là. J'aime bien.
Vous pleurez. Vous pleurez facilement dans les films romantiques.
Je peux. Ça me pose pas de problème, ouais.
Vous aimez bien Lady Gaga ?
J'aime bien depuis peu. Je trouvais que c'était un personnage très. Trop extravagant pour moi, qui allait trop loin dans les choses, j'arrivais pas à comprendre. Et il y a eu ce documentaire, comme quoi, quand on découvre aussi les gens d'une autre façon sur. Sur Netflix, je ne sais pas si on a le droit, qui la montrait très différemment et où finalement on comprenait beaucoup mieux son côté artiste et tout est pensé. Pour moi, là, je revenais sur l'excellence numéro un mondiale, qu'est-ce qu'elle recherche, pourquoi elle fait ça dans tous les domaines, la mode, les chansons, l'écriture, la musique, etc. Pour moi, ça a été très intéressant.
Vous dites elle allait trop loin au début. C'est marrant.
Oui, parce que je ne comprenais pas.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Et vous, dans vos réponses, dans votre manière d'être, vous êtes extrêmement pondéré, chaque mot est pesé. Est-ce que parfois...
Toujours.
Vous pétez jamais les plombs ?
Très rarement. C'est
vous
très
laissez
rare.
Jamais vos passions parler, dépasser la raison ?
C'est très rare, c'est vrai. Je réfléchis avant de parler. Souvent, je pèse les mots, je réfléchis pourquoi, comment, la situation, etc.
Mais même en amour, vous n'avez jamais fait un acte un peu fou ?
Des actes fous, oui, mais pas parler dans des situations un peu extrêmes. Je parle pas forcément d'amour. Non, j'essaye toujours de redescendre. Bien sûr, en amour, on fait des choses dingues et heureusement. Mais là, je parle surtout sur les choses plus négatives, impulsives, sur un énervement, une colère.
Vous n'avez pas le conflit, vous n'allez pas au conflit.
Je fuis le conflit. Je déteste ça.
Chaque mot est pesé, quoi.
Ouais.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing. For change, and in the bad times I fear myself.
Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void?
find myself longing for change. And in the bad times I fear myself.
Featuring Bradley Cooper, Shallow, le choix musical d'Amélie Mauresmo.
Femme puissante sur France Inter.
Amélie Mauresmo. Alors là, on est dans une petite salle qu'on a privatisée dans les coulisses de Roland Garros. On fait une interview. C'est quoi ? C'est une salle de presse là ? Il y a des chaises vides.
C'est une salle de presse improvisée, je pense, parce que le centre de presse, c'est pas du tout ici habituellement. Vous savez qu'il y a eu des travaux dans le stade de Roland-Garros. Mm-hmm. Voilà, donc c'est là que viennent les joueurs à la fin des matchs, généralement, voilà. Ou avant le début du tournoi, pour raconter un peu toujours les mêmes choses.
Et est-ce qu'on est loin du cours Suzanne Lenglen ?
On est un peu loin, oui, on est presque à l'autre bout du stade.
Vous avez déjà entendu la voix de Suzanne Lenglen ?
Non.
Il n'y a qu'une archive, qu'une seule dans l'INA, qu'on a retrouvée. Je pense qu'elle doit dater des années 30.
Alors.
Écoutez sa voix. Alors, elle raconte, on ne sait pas à qui, un journaliste, mais qui n'est pas identifié. Elle va parler de ma majesté, la majesté. Alors, d'une tête couronnée, on ne sait pas qui c'est. Et voilà, écoutez sa voix, Suzanne Lenglen.
Dites-moi, cher ami, que pensez-vous de la partie ? Mais nous avons fait, vous avez pu voir, une excellente partie. Sa majesté et moi avons gagné 6-2, 6-3, 6-3. Et vraiment, nous avons eu quelque peine à dominer nos adversaires, Burke et Augustin. Je n'avais pas joué avec Sa Majesté depuis plusieurs années. J'ai été frappée, je dois dire, de la superbe partie qu'elle a fournie. Le roi n'a certainement jamais mieux joué qu'en ce moment. Je tiens à exprimer ici la profonde reconnaissance que j'éprouve vis-à-vis de Sa Majesté pour la visite qu'elle a bien voulu faire à mon académie ensuite et pour l'intérêt qu'elle a montré pour les progrès de mes jeunes élèves et pour l'avenir du tennis français en général. Puissent les vœux qu'elle a bien voulu former tout à l'heure se réaliser et porter bonheur à nos couleurs pour la saison qui s'ouvre. C'est mon souhait le plus cher.
C'est incroyable, cette archive. Sa Majesté.
On ne sait pas qui c'est, en plus. On n'a pas
c'est
trouvé.
Fou.
Mais quand vous l'entendez, quand même, c'est...
C'est fabuleux. C'est fantastique. Puis il y a un phrasé, génial.
C'est génial, et en même temps, ça fait une référence au tennis, quand c'était ultra chic. Ouais. Il y a
mais
quelque totalement. Chose de très aristocratique dans la manière dont elle parle.
Évidemment, dans la voix, dans son phrasé. Non, C'est vraiment super. Merci de m'avoir fait écouter cette archive.
Le tennis, ça a longtemps été un sport d'élite.
De riche.
Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que ça s'est démocratisé ?
Je pense que ça s'est démocratisé, mais je pense qu'on est... on est encore un petit peu... beaucoup moins qu'à cette époque-là, mais on a encore... Et cette image-là est une forme de réalité, même si maintenant, avec Yannick notamment et son association Faites le Mur, on est dans les quartiers et vers des jeunes défavorisés pour déjà l'insertion et puis voilà faire découvrir ce sport à toutes les catégories finalement.
On est Amélie Mauresmo, on est le 5 juin 1983, ici à Roland-Garros. La finale vient d'être remportée par cet homme.
Madame, monsieur, bonsoir. 2h25 et une victoire en 3 manches pour Yannick Noah. 6-2, 7-5 et 7-6 au tie-break.
J'ai toujours envie de partager. C'est pas tellement que je sois comme ça, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui le méritent avec moi. Et Patrice est là. Il y a Jean-Paul également. Il y a toute la fédération. Tous ces gens qui ont travaillé avec moi depuis très longtemps. Et je pense que c'est un peu le fruit de tout ce travail en commun que cette victoire à Roland-Garros. Et j'espère que, bon, derrière, ça suivra, que ça donnera de l'ambition à d'autres jeunes, parce que c'est pas parce qu'on est français qu'on perd en finale ou qu'on fait de bons résultats de temps en temps, on peut également gagner, et je pense qu'on l'a prouvé tous ensemble aujourd'hui.
Ben voilà, il a tout dit, et moi je suis le fruit de ce 5 juin 83.
Parce que vous avez 4 ans, vous voilà. Êtes devant la télé, vous regardez Yannick Noah remporter Roland-Garros, mm-hmm. et vous vous dites à ce moment-là, je vais être à sa place.
Exactement, et c'est pas une légende, cette histoire est totalement vraie. À 4 ans, je sais pas si on se dit exactement je veux être à sa place, mais ce qui dégage, l'émotion qu'il ressent, qu'il transmet, même à travers le poste, ça, je crois que ça m'a touché profondément. On partage maintenant, pour bien le connaître, cette sensibilité-là, cette émotivité-là, peut-être aussi. Et ces mots qu'il vient de dire à la fin, je crois que, avec d'autres, hein, en France, on est les porteurs un peu de ce message-là, et on en a parlé juste avant, de se dire, on peut gagner, on peut aller tout en haut, on peut aller soulever les plus grands trophées, en sport ou ailleurs, et n'ayons pas honte de ça. Et moi, j'ai beaucoup appris aux côtés d'Yannick, que j'ai croisé après, à 18-19 ans, assez tôt dans ma carrière.
Qu'est-ce qu'il vous a appris au-delà du tennis ?
Il m'a appris ça, justement, cette façon d'aborder les choses. On a collaboré à plusieurs reprises dans ma carrière. Une envie de gagner, aussi une rigueur, malgré l'image qu'il peut avoir ou qu'il pouvait avoir de sortir, etc. Il avait aussi, à côté de ça, une immense rigueur. Donc, il a ces deux facettes-là, et on est aussi parfois similaires de ce côté-là. Mais il a toujours, en tout cas, une générosité immense. Et dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, quand il partage des choses avec les gens, c'est vraiment pour les amener plus haut. Donc ça, c'est extraordinaire.
Ça, c'est quand vous avez 4 ans. Et puis à 11 ans, vous quittez votre famille pour aller en internat, en sport-études. Et c'est votre choix à 11 ans. C'est pas vos parents.
Non, 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 parce que pour le coup, ça, c'était bien. Ils m'ont laissé vraiment libre de choisir, parce que c'était un sacrifice quand même, enfin, une décision importante et un sacrifice familial. Mais moi, j'avais envie de donner tout ce que je pouvais au tennis à 11 ans déjà. Maintenant que j'ai des enfants, je me dis que waouh, c'est tout petit, quoi, finalement.
C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'à posteriori, vous dites que vous avez souffert ?
C'était trop jeune, bien sûr.
De quitter sa famille.
Oui, à 11 ans, pour moi, j'ai trouvé ça trop jeune. Mais finalement, est-ce que c'est pas ça qui m'a renforcée et qui m'a amenée, dans les situations très difficiles que j'ai pu vivre par la suite, à avoir cette force et cette détermination supplémentaire, peut-être. Donc, humainement, pour mon épanouissement personnel de jeune fille, d'adolescente et de femme, c'était trop jeune. Pour mon accomplissement de joueuse de tennis, peut-être que c'était nécessaire.
Toutes les femmes qui ont un destin d'une certaine manière ont un rapport particulier au père, à leur père. Il y a quelque chose, en tout cas, il y a une matrice, il y a quelque chose à aller chercher là. Est-ce que chez vous aussi ?
Moi, j'ai perdu mon père assez tôt, avant d'être numéro un mondial, avant de gagner des grands chelems.
Vous dites que la mort de votre père en 2004, c'est un moment essentiel de votre vie.
Bien sûr. Là, on entre...
On peut ne pas entrer. Hein. C'est vous qui choisissez.
Je vais juste prendre 2 secondes. Mais c'est vrai que ça fait très longtemps que j'en ai pas parlé. Et comme quoi, 15 ans après, il y a encore des choses qui... 2 secondes. qui ressortent. C'était certainement très compliqué avec mon père, mais il y a toujours eu, de façon non dit, cet amour-là, d'un père avec une fille. Et quand il est parti, j'en ai pris peut-être pleinement conscience. Et sa disparition a joué un rôle énorme. On grandit d'un coup, forcément. On prend conscience de beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, on joue plus, enfin, dans ce que je faisais, c'était jouer au tennis, on joue plus de la même façon, on va plus loin, ouais, bien sûr, ça a été, un événement dans ma vie, effectivement, très, très marquant, et dans ma carrière aussi.
C'est-à-dire
de fait.
Que vous faites un lien entre... Parce qu'il est mort quelques mois avant que vous deveniez numéro 1 mondial.
Il est mort en mars 2004 et je suis devenue numéro 1 mondial en septembre 2004.
Et, comme si ça vous avait poussé.
Ouais, c'est pas anodin, c'est certainement pas anodin. Et 2 ans plus tard, j'ai gagné les grands chelems et voilà. Donc c'est une épreuve de vie. Donc ça vous renforce aussi dans ce que vous faites, dans le sport ou dans votre métier, à mon avis, en général.
Je vais vous faire sourire maintenant.
Ouais, c'est vrai, ça va aller mieux.
C'est vrai que vous chantez tout le temps ?
Souvent. Un peu moins maintenant, parce que je suis un peu plus fatiguée avec les enfants, mais j'aime bien.
Et alors, vous chantez quoi, Amélie Mauresmo ?
Alors, je chante quoi ? Je vais pas vous chanter
un
truc. Non, c'est pas possible. Non, ça, c'est sûr que c'est pas possible. Mais non, je chante un peu tout ce qu'on entend à la radio. J'aime bien, je retiens assez facilement, donc... Je mets la radio et puis voilà, en voiture ou quoi, ou à la maison, ça part quoi. Texas, pourquoi pas?
Texas, vous aimez bien, non?
J'aime bien, ouais, j'aime beaucoup.
I don't need a lover.
Ouais. Mais ça, c'est la dernière aussi bien, mais I don't need a lover, ouais, c'est drôle de choisir celle-là.
Alors que vous, you need a lover, parce que vous avez dit, je n'ai jamais été aussi bonne en tennis que quand j'étais amoureuse.
C'est vrai, dans ma carrière, ça a été important. Épanouissement personnel, pour moi, c'était toujours important et je pouvais exprimer finalement pleinement mes capacités sur le terrain quand j'étais bien dans ma vie, c'est sûr, à côté. Donc ça a été toujours très important, ouais.
Amélie Mauresmo, 14 ans, TC Mérus.
C'est Amélie Mauresmo qui vient de frapper le plus fort.
Elle domine la catégorie junior au niveau mondial.
Amélie Mauresmo porte des lunettes noires, mais n'allez pas croire pour autant qu'elle se prenne déjà pour une star. Non, elle souffre tout simplement d'une terrible myopie.
Myope, elle porte des lunettes sur le court et sur ses épaules, les espoirs du tennis français.
Merci Christophe, merci Sylvie d'être là avec moi. Et je vous aime tous les deux et puis j'espère revenir l'année prochaine.
À 19 ans, vous révélez votre homosexualité. Ça a été une période...
Mouvementé,
on va dire.
C'était mouvementé, oui.
La numéro 1 mondiale est désormais française, c'est Amélie Mauresmo.
La première française à devenir numéro 1 mondiale.
Amélie Mauresmo n'avait sans doute jamais offert un tel sourire.
Numéro 1 mondiale de tennis pour la deuxième fois de sa carrière. Amélie Mauresmo qui savoure évidemment sa bonne fortune.
Si je vous ai tous réunis ici, c'est comme vous l'imaginiez probablement déjà pour vous annoncer la fin de ma carrière. Ça va être dur là.
Si tout cela était à refaire, cette aventure, le tennis, les efforts, les coups reçus, est-ce que vous referiez exactement la même chose ?
Je crois que je re-signerais, ouais.
Quand le tennis s'arrête, quand la carrière professionnelle s'arrête, est-ce que c'est vertigineux ?
Alors pour moi, pas du tout.
Pourquoi ?
Je pense parce que j'étais prête, parce que je l'ai décidé, parce que c'est pas mon corps qui a pris la décision pour moi, je l'ai décidé, j'en avais marre en fait. Donc du coup, c'est beaucoup plus simple d'arrêter. Pour moi, ça a été un soulagement. Et je suis très heureuse que ça se soit passé de cette façon-là. Ça faisait quelques mois.
Vous décidez souvent hein, dans la vie.
Oui, bah, j'ai
vous
cette chance-là.
Vous prenez vous-même les décisions.
Je ne sais pas si c'est une chance ou si c'est un caractère aussi. Il y a peut-être un peu des deux. Mais en tout cas, ça a été un grand soulagement. J'avais l'impression de plus pouvoir accomplir mes rêves, à savoir aller gagner un ou plusieurs autres grands chelems. Donc pour moi, ça ne m'intéressait plus. Ça ne m'intéressait plus. J'ai pris quelques mois de réflexion et j'ai dit stop. Presque du jour au lendemain. Et j'ai jamais regretté.
Jamais ?
Non. À aucun moment.
D'ailleurs, vous n'avez jamais fait de revenez-y comme d'autres joueurs ou joueuses qui s'arrêtent et qui reviennent un an après en disant je vais gagner Roland-Garros.
Non. Ça, c'était pas moi. Et encore une fois, le soulagement que j'ai ressenti à ce moment-là m'a tout de suite montré que c'était la bonne décision. She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Let them make cakes, she says, just like Marie Antoinette. A building a remedy for Khrushchev and Kennedy. At a time of invitation, you can't decline. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen. Try. Oh, 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 oh.
the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman, China, went down to gauge your mind. And then again, incidentally, me that way. Because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Temporarily out of action, temporarily out of dance. So absolutely try. She's out to get you. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Anytime. Recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try?
Killer à l'instant par Queen et on retourne à Roland-Garros en compagnie d'Amélie Mauresmo.
France Inter, femme puissante, Léa Salamé.
Amélie Mauresmo. Alors Andy Murray, il vous a donc demandé de l'entraîner. On va l'écouter, ça ne le dérange absolument pas d'être entraîné par une femme, tout au contraire.
Au contraire.
Pour moi, être coaché par une femme n'est pas si nouveau. J'ai grandi en travaillant avec ma mère jusqu'à mes 16-17 ans. Avec Amélie, cela va être quelque chose de nouveau et d'excitant. J'espère que cela va bien se passer.
Pour lui, c'était un geste naturel pour lui, mais de fait, c'était forcément à ce moment-là, en plus, un geste très féministe. Il l'a dit lui-même par la suite. Voilà, si ça, effectivement, c'est être féministe, alors je suis féministe. Mais pour lui, c'était important d'avoir une écoute différente au sein de son équipe aussi, d'avoir une femme. Quand on est entraîneur dans une équipe, on est
le boss.
Eh oui. Et c'était important d'avoir une femme pour diriger, en tout cas guider et collaborer les hommes qui étaient présents dans son équipe.
Et être le boss.
Alors, moi, j'aime bien être leader du projet. Mais pour moi, c'est pas un sentiment hiérarchique.
Vous n'êtes pas autoritaire ou cassante avec Lucas Pouille.
Mais non, mais lui.
Vous l'avez pas engueulé quand il s'est fait sortir de Roland Garros.
On a discuté. Mais moi, je crois pas que j'engueule. Je dis les choses. Je les dis pas d'une façon agressive. Je les dis pas du tout d'une façon cassante. Et je les dis pas pour juger. Pour moi, c'est toujours pour avancer, pour progresser. C'est voilà.
Mais est-ce que vous avez entendu des remarques désagréables, sexistes, quand vous avez entraîné Andy Murray?
Je pense qu'Andy en a entendu beaucoup plus que moi, parce qu'en face, on n'osait peut-être pas forcément me le dire, mais je sais que lui a entendu des choses assez violentes.
Comme quoi?
Je crois qu'il a reçu un message d'un joueur ou d'un autre entraîneur, ou je sais pas, la prochaine fois, t'as qu'à aussi demander à un chien de t'entraîner ou un truc comme ça.
Ah, c'est intéressant.
C'est violent.
Ah oui, d'accord.
C'est très très violent. Il me l'a pas dit tout de suite. Il me l'a dit plusieurs mois, voire même un an ou deux après. Ouais. On est en 2014 à ce moment-là.
Oui, donc il y a 5 ans.
Donc il y a 5 ans. Donc ça montre à quel point la société, à ce moment-là, 5 ans plus tard, on a bien avancé quand même.
Ah, vous diriez, c'est ce que j'allais vous demander. Oui. Est-ce que le tennis reste un sport machiste ou est-ce qu'il y a des avancées?
Ça avance, ça reste, je pense, un sport machiste. Mais on a quand même avancé. Le sport en général a avancé, pas seulement le tennis. Mais grâce à des gars comme lui qui ont fait avancer les choses plus que moi.
Vous avoir choisi.
Mais bien sûr.
C'est lui qui a fait le geste. Le mouvement MeToo, balance ton port, n'est pas tellement venu dans le milieu sportif. Et pourtant, on peut imaginer qu'il y a des relations toxiques entre entraîneurs hommes et petites jeunes qui commencent le sport. Vous en connaissez, vous ?
Moi, j'en connais de l'époque, d'un cas malheureusement connu d'Isabelle de Mongeau avec l'entraîneur de l'époque, Régis de Camaret, qui est d'ailleurs maintenant en prison, ou je ne sais pas s'il y est encore, mais il a été condamné. Donc, je crois que le sport, c'est le reflet de toute façon de la société. Donc, on peut imaginer effectivement qu'il y a aussi, malheureusement, ce genre d'abus dans le sport en général.
Et plus largement, vous en avez pensé quoi de ce mouvement-là qui a tout balayé comme ça pendant quelques semaines, quelques mois ? Vous avez trouvé que c'était nécessaire ?
Je pense que
ça allait trop loin ?
Forcément, quand il y a des avancées, on peut souvent considérer que ça va trop loin. Mais en fait, quand on regarde un peu historiquement toutes les avancées, il faut presque aller trop loin pour revenir après à quelque chose de plus cohérent.
Ça a changé quelque chose.
Il y en a eu quelques-uns qui ont dû
avoir chaud aux fesses.
Oui, quand ont dû avoir. C'est ça.
mais c'est bien de faire peur.
C'était nécessaire. En même temps, ça c'était effrayant aussi de voir le nombre de femmes qui prenaient la parole, qui disaient leur histoire.
Ça vous a surprise le nombre ?
Ah ouais. Bah oui.
Vous soupçonniez pas que.
On peut pas soupçonner. Enfin, je crois que c'est. Moi, je suis peut-être un peu naïve, hein, mais on peut pas soupçonner ça. Enfin, autant. Mais c'était une prise de conscience, justement. C'est pour ça que je dis que c'était nécessaire. Parce que là, on s'est dit quand même. Ah ouais, c'est autant que ça. Ça touche vraiment.
Certaines femmes ont eu peur que ça déclenche une guerre des sexes entre hommes et femmes.
Non, moi, j'ai pas eu ce.
Un esprit revanchard.
Non, parce que je crois que les hommes, attention, je crois qu'ils sont conscients aussi des choses, donc il n'y a pas, faut pas faire les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Je crois qu'on n'en est pas du tout là, mais en revanche, il faut faire avancer les mentalités.
Les compétitions sportives féminines suscitent toujours moins d'intérêt que celles des hommes. On entend toujours, quand on dit la finale de Roland-Garros, on ne précise pas, mais on pense aux hommes. Ça ne change pas, ça. Hein. On pense toujours à un Federer, un Nadal.
Est-ce que c'est les médias qui doivent avancer là-dessus ? Est-ce qu'ils doivent mettre le sport féminin un peu plus en avant ?
C'est ça le problème aussi, non ?
C'est pas
même
que
si ça avance.
Mais je crois que ça avance. On a la Coupe du Monde de foot féminine. On est obligé de préciser la Coupe. Mais je crois que c'est en train d'avancer, mais ça avance tout doucement. Tout doucement.
Le football, justement, les championnes de France. Ouais. J'ai interviewé il y a quelques jours Amandine Henry, la capitaine de l'équipe de France. Écoutez ce qu'elle dit sur le fait qu'elle gagne clairement beaucoup moins que Kylian Mbappé.
Est-ce que vous gagnez 10 fois, 100 fois, 1000 fois moins que Kylian Mbappé, par exemple ?
Oui, je pense qu'on gagne 100 fois moins que lui. Mais on est très heureuse comme ça, on joue pas pour l'argent. Après, je pense que si on demande des joueuses qui jouaient 20 ans en arrière, elles auraient aimé être à notre place. Donc on n'est pas à plein loin de là. Après, j'espère que le foot féminin évoluera dans ce sens aussi.
Elle devrait gagner autant que Kylian Mbappé, au fond, vous comprenez qu'elle gagne moins.
C'est très difficile cette question parce que nous, on a beaucoup de chance dans le tennis parce qu'on a la parité et qu'on s'est battu pour ça il y a justement une quinzaine d'années.
Donc aujourd'hui, la numéro 8 mondiale gagne la même chose que le numéro 8 mondial ?
Oui, dans ses résultats, en grand chelem notamment, celui qui fait quart ou le vainqueur va gagner la même chose que le vainqueur. En revanche, sur les publicités, ça c'est autre chose, mais c'est aussi la loi de l'offre et de la demande.
Oui, c'est la loi du marché, donc
exactement,
si vous vendez, si vous êtes plus vendeur, ça vous l'acceptez.
Donc ça, mais bien sûr, c'est logique. Mais en revanche, sur le terrain, c'est la même chose.
On a beaucoup parlé et écrit quand vous jouiez sur votre physique. Et je vous regarde, là, il n'y a pas l'image, mais moi j'ai la femme en face de moi. Et vous êtes extrêmement féminine et pas du tout, pas tellement musclée.
Je crois qu'il y a eu un truc qui m'a fait beaucoup de mal, ce sont les guignols. Et puis forcément, une femme en train de faire du sport, bah oui, elle est moins féminine, les cheveux, la transpiration, les muscles qui sont forcément un peu plus saillants dans l'effort. Donc voilà, mais je pense que les guignols, finalement, la marionnette a fait énormément de mal et dans l'imaginaire, en fait.
Vous dites, on ne s'est pas représenté à quel point ça a été dur pour moi.
Ouais. Mais c'est vrai, parce que je crois que quand on touche, en plus pour un sportif, une sportive, quand on touche à son corps, c'est très important. La représentation qu'on s'en fait, ce que les gens pensent, moi j'étais quand même très sensible à ça.
Et qu'est-ce qui vous a violenté ? Il y a eu les guignols et il y a eu la fameuse phrase terrible de Martine Aguisse.
Exact, j'avais même oublié, mais effectivement.
Vous l'aviez oublié ?
Non, je ne l'ai pas oublié.
Ça m'étonne parce que vous dites dans une interview, je ne lui pardonnerai jamais ce qu'elle a dit.
Alors c'est pas que je l'ai oublié, mais c'est que là, en fait, en parlant, ça me revient en même temps. Mais ce qui me vient en premier, c'est plutôt la marionnette.
Ah oui. Et elle a dit, pour ceux qui l'auraient loupé, c'était il y a
20 ans.
Il y a 20 ans, j'ai joué face à la moitié d'un homme.
Exactement.
Et ça, vous avez dit, je ne lui pardonnerai jamais.
Non, parce que toute jeune qu'elle était, et on peut mettre ça aussi sur le compte un peu de dire n'importe quoi quand on est jeune, je crois que c'est quelque chose qui touche profondément. Moi, j'avais 19 ans aussi, donc j'étais pas si vieille. Et ça vous marque, ouais. Oui, ça m'a beaucoup marqué. On est 20 ans plus tard, donc les choses, voilà, s'estompent forcément. Mais je crois que ça a été ouais, très difficile à gérer toute cette période-là, de toute façon, avec le coming out, etc. C'était un tsunami, quoi. Là, j'étais.
Alors, le coming out.
Ah bon, on en parle? J'adore. Ça, c'est mon style de musique.
Vous avez chanté.
Un tout petit peu.
Vous avez chantonné, Gloria Gaynor, c'est efficace.
Très doucement. Mais oui, I Am What I Am, c'était un peu ça. C'était à l'époque une façon de très naïve sur le moment de dire voilà ma vie, voilà ce qu'il en est.
Vous avez 19 ans et vous le sortiez dans une conférence de presse en Australie, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Vous aviez prévu de le dire ou c'est sorti ?
Pas du tout. Pas du tout, mais on me demande alors t'as changé de structure, t'as déménagé, tout. Bah oui, j'ai suivi ma compagne, voilà. Et puis
c'est sorti comme ça.
Voilà. Et bah donc derrière, c'était le boxon.
C'était quoi derrière ? Rappelez-nous ce que c'était.
Pour moi,
derrière.
C'était alors j'hésite, tsunami, ouragan, voilà, quelque chose. En
et
tout
encore,
cas.
Il n'y avait pas les réseaux sociaux.
Et il n'y avait pas les réseaux sociaux, c'est vrai. Mais un déferlement auquel j'étais pas préparée du tout. Un mélange de violence et de soutien, d'agression et de soutien, c'était très étrange. C'était unique à ce moment-là.
Vous étiez une des premières. Ouais, et d'ailleurs, depuis, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait leur coming out, comme on dit.
Ben, remarque, quand ils voyaient ça, je les comprends. Non, mais je plaisante parce que je pense que c'est nécessaire. Mais à vivre, c'était pas très agréable. C'était très compliqué, quoi. Très, très compliqué. Ouais, mais c'était tabou. Surtout.
En vous fait, dites, si c'était à refaire, j'aurais fait autrement.
Ah oui.
Ah ouais ?
Alors, je regrette pas de l'avoir fait. C'est ça qui est assez paradoxal, parce que je pense que derrière, il y a eu 2 ans difficiles pour comprendre un peu les médias, les tenants, les aboutissants, quel genre d'exposition je veux avoir ou pas avoir, etc. Ce qui explique aussi, je pense, aujourd'hui, le fait que je sois très discrète et très secrète, peut-être, dans les médias, et que là, on se voit, c'est très rare. J'ai été assez échaudée, oui. Assez échaudée.
Il faut dire les choses, Amélie Mauresmo, c'est que vous refusez beaucoup, beaucoup d'interviews depuis des années.
Quasiment
tout. Et c'est vrai que quand j'ai préparé l'interview, je me suis dit, elle ne veut pas parler. Elle ne veut pas reparler de son coming out. Et d'ailleurs, quand on vous repose la question, j'avais peur de tomber à côté si je vous en parlais.
Oui.
En même temps, je ne me voyais pas ne pas vous en parler parce que c'est aussi ça
Bien
qui
sûr.
A fait votre,
Bien sûr.
Votre renommée aussi.
Non, pour moi, il n'y a aucun problème là-dessus. En carrière, c'est vrai que j'avais envie qu'on se concentre plus sur la joueuse de tennis que j'étais, sur les résultats que j'avais, que sur le fait que des années auparavant, j'avais fait mon coming out. Donc ça, pour moi, c'était important. Maintenant, voilà, je vais avoir 40 ans cette année. Je sais, avec le recul, l'importance que ça a eu dans l'œil du public.
Et pour beaucoup
aussi.
De jeunes filles. Beaucoup
et pour
de
beaucoup
jeunes
de jeunes filles. J'ai encore des gens aujourd'hui qui viennent me voir en me disant « Mais ça a été, vous m'avez sauvée, voilà, c'était fantastique, etc. » Sur le moment, je n'étais pas capable d'entendre ça.
Et aujourd'hui ?
Bah aujourd'hui, oui, je le prends. Je suis toujours surprise d'une certaine façon, mais je le prends. Je prends, quoi. On prend tout ce qui a pu apporter aux gens, c'est fantastique.
Et pour autant, vous auriez pu vous mobiliser plus pour ces causes-là. Et vous ne le faites pas depuis 10 ou 15 ans pour l'homosexualité, mais au-delà pour la PMA, puisque vous avez eu des enfants par la PMA. Non,
ça, je ne parle pas de mes enfants.
Enfin,
je ne parle pas de la façon. Je vais revenir là-dessus, parce que je suis d'ailleurs toujours étonnée qu'on demande à quelqu'un comment il a fait ses enfants. C'est pas la première fois que j'entends à mon égard ce genre de phrase ou de question. Et je me dis, mais quand même, c'est fou, quoi. Est-ce qu'on demande aux gens, alors, vous avez du mal? Enfin, je veux dire, un couple.
Mais vous avez tout à fait raison.
Alors, c'était dans la cuisine, enfin.
Vous avez tout à fait raison.
Merci.
je suis très contente. Je retire cette. Parce que c'est vrai que j'ai comme j'ai préétabli le fait que vous l'aviez fait par PMA et peut-être marrant. Pas parce que vous n'en avez jamais répondu. Exactement. Donc je ne vais même pas vous demander comment vous avez fait.
Et bah, c'est
en tout cas, vous avez deux enfants.
Mais il y a un sujet d'actualité. Mais en revanche, tout,
c'est là où je voulais en venir. Exactement. Et il y a un sujet sur l'extension de la PMA. Oui. Et là, on entend d'autres femmes être le porte-drapeau de ça. Et vous non.
Peu importe. Oui.
Peu importe la sexualité.
Je crois que la dernière interview chez Laurent Delahousse, d'ailleurs, on en a parlé, mais ça fait déjà. Oh non, c'était l'année dernière au moment
sur France 2,
où j'ai clairement dit que effectivement, il me semblait naturel et normal que toutes les femmes puissent avoir accès à la PMA. Mais c'est vrai que peut-être je suis pas encore prête à être effectivement le porte-parole parmi d'autres. Hein, vous l'avez dit, il y a d'autres personnes qui se mobilisent. Je sais pas. Je le dis, je le répète. Les apparitions médiatiques, je suis assez méfiante et assez échaudée.
Mais c'est dû à ça. Si vous avez commencé.
Je crois.
Lire. Et pourtant, quand je vous ai dit bonjour, la première phrase que vous avez dit, ça m'a surpris, si je peux me permettre. Je vous ai dit pourquoi vous êtes une femme puissante. Et tout de suite, vous avez dit, avant même de parler du fait que vous êtes une femme puissante, d'abord parce que vous avez été numéro un mondial et la seule française à l'avoir été, vous avez dit sans doute à cause de mon coming out.
Oui, parce que je pense que ça a été. Alors, j'aurais pu dire mon coming out et le fait, après carrière, première femme à entraîner Andy Murray. Et voilà, je crois que je casse des codes, des barrières, des choses. Et ça, c'est presque plus important que le fait que j'ai été numéro un mondial de tennis. C'est ce que je pense. Mmh. C'est ce que je pense.
Écoutez ce témoignage d'une femme qui a eu recours à la PMA pour faire ses enfants.
Ça vous a coûté combien par enfant ?
Par enfant, ça nous a coûté 2000 euros. Si je vous compte les rendez-vous, les déplacements, les chambres d'hôtel, voilà, 2000 euros.
Et psychologiquement, est-ce que ça vous a coûté ?
Cher parce que faire la démarche de partir dans un pays étranger pour fonder une famille, c'est se rappeler à chaque fois qu'en France, on n'a pas la possibilité de le faire parce qu'on n'aime pas la bonne personne, qu'on n'aime pas le bon sexe. Donc évidemment que c'est une chance, on a fondé une famille, on a des beaux enfants, c'est génial, mais à côté de ça, on a quand même la sensation que... qu'on n'est pas reconnu dans son pays, qu'on voilà, c'est toujours un petit peu le verre à moitié plein, à moitié vide en fait, quand on va en Belgique et quand on rentre avec les enfants.
Propos recueilli par Pascal Clark. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce témoignage ?
Ben, c'est ce qu'elle dit, le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. On sent une grande joie évidemment, et puis quand même une douleur qui est là, qui est sous-jacente. Donc et ce sentiment de pas, elle a dit aimer la bonne personne ou de pas avoir de droit. Je crois qu'il y a un truc de droit finalement, de l'égalité là-dedans, qui est très important pour toutes les femmes de pouvoir appartenir à cette société. Est-ce qu'il y a un sentiment du coup de ben non, je suis pas assez bien ou je suis moins bien que les autres, voilà. Donc je crois que ça c'est important. En plus souvent toutes celles que je connais, les femmes qui ont recours à la PMA, c'est souvent des parcours quand même assez compliqués, donc il y a un souhait vraiment profond. Donc voilà.
Donc vous souhaitez que Emmanuel Macron
aille au bout de sa promesse. Je pense que ça va le faire, oui.
J'ai juste une question. Vous parlez de votre discrétion et c'est vrai. Sauf sur votre compte Instagram, où j'ai pu voir, et ça m'a surpris pour quelqu'un d'aussi discret, les visages de vos enfants.
On les voit, peut-être sur la dernière. J'ai un peu appuyé trop vite.
Voilà, c'est d'ailleurs très, très mignon. Mais je me suis dit, elle n'est pas effrayée d'exposer ses enfants.
Alors, il faut savoir que quasiment tout le temps, je les mets de dos, etc. Mais bon, il y a des images aussi. Je sais que, voilà, dans les gradins, en Australie notamment, etc. Donc, il y a quand même des images des enfants. Je veux, et d'une façon, les protéger, mais aussi pas non plus les mettre dans une boîte, quoi. Voilà, je suis comme toutes les mamans, finalement, à
vous
vouloir.
Vous les trouvez mignons, vous avez mis de la photo sur Instagram.
Dire, bon, ben voilà, je
et
le
vous
sais, quoi.
Que vous êtes connue.
Exactement. Bon, j'ai peut-être appuyé un peu vite sur la dernière. J'avais
c'est
pas bien
tard.
Vu qu'on voyait les visages. Mais voilà, mais oui, c'est finalement très, très banal de la part d'une maman, quoi.
Quelques questions de fin pour terminer, Amélie Mauresmo.
Déjà ?
Oui. Vous voyez, vous devriez parler
j'y
plus
prends goût.
Que vous prenez goût. Vous êtes plutôt Bjorn Borg ou John McEnroe ?
McEnroe.
Pourquoi ?
Plus fou, plus d'âme, plus de... Il se passe des trucs, quoi. Plus d'émotions.
Si ce n'était pas le tennis, vous auriez fait quoi de votre vie ?
Je crois que j'aurais fait des études. Ingénieur, mon père, mon grand-père, mon oncle, mon frère... Donc peut-être j'aurais pas été très, très original de ce point de vue-là.
Si vous étiez un homme pendant 24 heures, vous feriez quoi ?
Oh là là. Je sais pas. Je ferais pipi debout.
Votre plus grand regret?
J'en ai pas.
Il paraît que vous adorez parier sur tout et sur oui. rien. C'était quoi votre dernier pari?
Là, sur des matchs, mais attention, hein, avec Lucas ou avec et lui, il est encore pire que moi. Pendant un entraînement, on va parier sur ce qui va toucher la balle ou pas.
Vous gagnez souvent?
Je suis positive pour l'instant. Je suis dans les plus.
Vous êtes au-dessus, ouais. Mais vous n'êtes pas encore la numéro 1 mondiale du pari.
Non, loin là. Très loin.
Merci Amélie Mauresco.
Merci d'être
merci
de
nous avoir
à la rencontre
à Roland-Garros.
C'était super sympa.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes, une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Allez te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Belle, t'es pas si bête. Pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi. C'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en oui, je serai poli pour la télé. Peut-être ça changera. Y a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux.
Angèle, balance ton quoi pour terminer cet épisode de Femmes Puissantes. Cette émission a été préparée par Outi Schraniti, Céline Villegas, Mathieu Sarda, Pauline Loquès et Marie-Elisabeth Jacquet. À la prise de son, Benjamin Thiot. À la programmation musicale, Jean-Baptiste Audibert. À la réalisation, Sonia Leglen. Bel été à tous. La semaine prochaine dans Femmes Puissantes, ce sera elle.
Ce que j'aime, c'est ne pas être invisible et transparente. Moi, j'aime une grande notoriété. Ah, ça vous donne un peu quelque chose. Les gens après vous remarquent. Ça me donne un sens.